c'est bon. Ok. Des résolutions qui changent la vie. Alors, on a parlé des grandes idées un petit peu, de l'engagement chrétien, ce que ça veut dire, pourquoi c'est beau aux yeux de Dieu. Ce soir, on va être plus dans le pratico-pratique. Qu'est-ce que c'est des résolutions de point de vue pratique, où c'est qu'on les retrouve dans la Bible, et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, juste par curiosité, combien d'entre vous ont pris des résolutions de Nouvel An? Donc, un petit nombre, et combien sont arrivés à les garder? C'est vrai que quand on regarde en résolution, souvent c'est un petit peu décourageant. Une étude qui a été faite dit qu'une personne sur quatre abandonne ses résolutions au bout d'une semaine. Donc au bout d'une semaine, déjà un quart, c'est fini. Au bout d'un mois, la moitié, c'est fini. Et à la fin de l'année, peut-être une personne sur dix tient ses résolutions. Et souvent, finalement, en fait, on ne les tient pas bien les résolutions parce qu'on les fait mal. On les fait rapidement, on ne les écrit pas, donc on les oublie. Des fois, on est trop ambitieux. Où elles sont trop ennuyeuses, elles sont trop routinières, elles n'inspirent pas. Des fois, c'est trop vague, c'est pas mesurable, c'est pas atteignable. Mais personnellement, je trouve que c'est vraiment chouette, tous les ans, tous les mois, tous les quelques temps, de juste se remettre à plat et de se fixer des objectifs. D'un point de vue biblique, ben, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que Dieu recherche? Des gens qui se disent, ben, écoute, Dieu, moi, ma vie spirituelle, j'improvise. Donc, aucun souci, je maîtrise vie de prière, vie, lecture de la Bible, engagement, j'improvise, t'inquiète pas, je maîtrise. Ou sinon, de se dire, bah, écoute, Dieu, j'ai envie d'aller de l'avant et je vais lutter en prenant des décisions et peut-être je ne vais pas y arriver, mais je vais me donner une direction et je vais me donner des buts, je vais me donner des objectifs et je vais m'efforcer pour essayer d'aller de l'avant. Et quand on regarde dans la Bible, tous les héros de la Bible, c'était des personnes résolues, qui avaient des résolutions extrêmement pratiques. Qui finalement ont encadré toute leur vie. Comme Daniel, par exemple, dès le début de sa vie, on voit qu'il a une résolution. On le met au défi en disant, mais est-ce que tu es prêt à compromettre peut-être ta foi en mangeant des aliments impurs ou enfin, qu'on n'ait pas tout le contexte de ce qu'on voulait lui faire manger. Et Daniel, il prend position tout de suite, en disant, non, moi j'ai une résolution d'honorer Dieu. Il va la tenir jusqu'à la fin de sa vie, ou même malgré la menace de mort, il va prier dans sa chambre, faisant face à Jérusalem. Il commence sa vie par des résolutions qu'il va tenir toute sa vie. Et Daniel, il a une vie mais qui a un impact incroyable. On regarde dans les psaumes, David, psaume 34, verset 2, il va faire cette résolution. Cette résolution, il va écrire que je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et quand on regarde les psaumes, des fois ça va très mal, il écrit un psaume. Ça va très bien, il écrit un psaume. Il est toujours en train d'avoir la louange dans sa bouche parce qu'il a pris cette résolution de vie. Que peu importe ce qu'il arrive, et de nos jours, on le connaît comme un des plus grands écrivains de cantiques de notre histoire, parce qu'il avait pris une résolution. Job était connu comme un homme intègre et juste. Job 31, verset 1, on voit un pacte qu'il avait fait, une résolution de cœur qu'il avait dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux, comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Dès son jeune âge, il avait pris une résolution de vivre dans l'intégrité. Il a été porté par ses résolutions pendant toute sa vie. On pense à Ruth, lorsqu'elle dit à sa belle-mère, là où tu irais, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple. Et elle est prête à prendre cette résolution, poursuivre Dieu, de tout abandonner, son peuple, sa patrie. Une des plus belles amitiés qu'on voit dans la Bible, c'est celle entre David et Jonathan, mais c'est centré sur quoi? Sur une résolution. David et Jonathan vont faire une alliance, ils vont faire une promesse, ils vont prendre une résolution. 1 Samuel 18, 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Et là, on voit une relation qui est juste précieuse, encore une fois, centrée sur une résolution personnelle qu'ils ont prise. Et puis voilà, on pourrait faire la liste de tellement de personnages bibliques. Paul, jusqu'à la fin de sa vie, il prend la résolution d'aller à Rome. Même si c'est au travers de l'emprisonnement. Il prend la résolution de prier nuit et jour pour les implantations d'église. En acte 20, 24, il parle de sa vie, il va dire, mais je n'y attache aucune importance. Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et c'est vrai que pour Paul, ben, c'était sa résolution de vie. Que partout là où Dieu l'envoyait, ben, il prêchait la bonne nouvelle. Et bien entendu, le meilleur exemple de résolution, comme on l'a parlé, c'est Jésus-Christ qui a pris cette résolution de venir sauver l'humanité. Il a quitté la gloire du ciel et il a surmonté tous les obstacles qu'on pouvait imaginer pour accomplir cette résolution, cet engagement qu'il avait pris de venir sauver l'humanité. Et que ce soit dans la Bible ou dans les biographies de personnes qu'on lit, les vies qui impactent leur génération et qui inspirent leur génération, ce sont des gens qui ont des vies centrées sur des résolutions, qui ont des buts, qui ont des objectifs, et qui savent où ils vont et qui surmontent les obstacles en persévérant malgré l'épreuve parce qu'ils sont, ils savent leur direction. Alors ça demande de se faire violence et souvent on est réfractaire un petit peu, enfin, on a peur de prendre des résolutions en disant ben, ça m'engage. Mais c'est quoi l'autre option ? De dire ben, écoute Dieu, cette année je pense qu'en fait tu n'es pas assez sage pour m'aider dans mes problèmes. Donc je ne sais pas si je vais vraiment prendre des objectifs de croissance. Dieu, je ne sais pas si tu es assez aimable cette année pour me donner envie de me rapprocher de toi. Donc je ne vais pas vraiment me donner des objectifs. Ou Dieu, je ne sais pas si tu es assez fort pour me soutenir cette année, donc je ne sais pas si je vais vraiment essayer de progresser. Enfin, on le sait, la vie chrétienne, c'est tout le contraire. Tout le contraire, comme Paul encourage l'église aux Thessaloniciens d'aller de progrès en progrès. Toujours plus de progresser encore. Moi, j'aime bien prendre des résolutions au mois. De juste me donner des défis. Par exemple, ce mois-ci, tous les jours, je vais essayer de faire ci ou faire ça. Et finalement, c'est flexible, mais ça m'engage et ça me pousse vers l'avant. Les résolutions, c'est l'obéissance, mais c'est aussi ajuster. Quelque part, quand on prend une résolution, on prend la Bible et on la reformule avec nos propres paroles. Et ça, c'est quand même fort parce qu'on s'approprie les vérités bibliques avec aussi des vérités qui nous parlent là où on est dans notre cheminement de vie, par rapport à notre appel, par rapport à là où Dieu nous place. Et quand on arrive à formuler des fois des phrases clés qui nous parlent vraiment, ben, ça nous pousse vers l'avant. J'aime bien les résolutions parce que c'est inspirant, mais c'est concis. Des fois, on peut prendre une résolution et ça peut transformer notre vie. Ça peut transformer notre vie. D'ailleurs, quand on parle des habitudes, quand on parle de discipline, les études montrent que souvent, il suffit d'une seule discipline pour réguler en fait toute notre vie. Parce que si on veut être fidèle à garder une discipline, bah, si tu veux lire la Bible tous les matins à 7h, bah, ça veut dire que le soir, il faut aller te coucher plus tôt. Enfin, il y a toute la vie qui se régule, même autour d'une seule résolution de vie qu'on peut prendre. Et bon, c'est un de mes buts pour vous ce soir, c'est que vous partiez avec au moins une résolution. Et puis c'est personnel, mais c'est transmissible. Et moi, presque toutes les résolutions de vie que j'ai prises, c'est parce que j'ai vu ça chez d'autres personnes. J'ai vu des gens qui ont pris des résolutions et ça m'a parlé la manière dont ils l'ont formulé. Je me dis, je me reconnais là-dedans. Moi, mon mentor, tous les matins, il priait pour l'humilité, la sagesse et la pureté. C'est une formule tellement simple, mais ça me parle. Et du coup, bah, c'est une formule que j'ai adoptée. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle « Lire, prier, chanter » par Donald Whitney sur les cultes de famille. Et lui, sa résolution, c'est d'avoir des cultes de famille où il fait ces trois choses, lire, prier, chanter. Et j'ai trouvé ça génial parce que même avec des enfants de bas âge, ben, on peut faire ça. Je leur lis un verset, on chante un chant ensemble et on prie ensemble courtement. Et c'est génial, on a des cultes de famille parce que j'ai appris de la résolution de ce frère. Il y avait une famille dans une église où j'ai assisté où ils avaient quatre jeunes filles et leur résolution, c'était là où on y va pour servir. Et ça m'a parlé, cette résolution. Et c'est ce que j'ai voulu adopter pour mes enfants. Ma fille, son deuxième prénom, c'est le nom de sa grand-mère, le surnom de sa grand-mère japonaise, Kimie, qui veut dire une bénédiction pour le peuple. Et à ma fille, je lui dis, à chaque fois qu'on va quelque part, on y va pour bénir des gens. Et c'est fou qu'on a hérité de quelqu'un d'autre. Et déjà, ma fille, elle s'applique à le mettre en pratique. Et c'est incroyable le témoignage qu'elle peut même avoir déjà à son école en tant que gamine. Parce qu'elle a cette mentalité de là où elle y va pour bénir. Et c'est trop chouette, quand elle était en grande section de maternelle, maintenant elle est en CE1, à un moment elle rentre de l'école, elle me dit « Papa, c'est vraiment trop dur de parler de Jésus. » Et je fais « Ah ouais ?» Elle dit « Bah ouais, parce que j'essaie de parler à autant de monde que je peux, mais il y a trop de monde dans mon école et j'ai pas encore réussi à parler à tout le monde. » Alors les résolutions, c'est un outil, c'est un des outils que Dieu nous donne, il y en a d'autres, mais c'est un outil que je trouve extrêmement efficace. Et c'est pour ça que je suis un grand partisan des résolutions. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la vie de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, à l'âge de 17 ans, il a écrit 70 résolutions. Alors, moi, je n'en écris pas autant parce que lui, il avait un cerveau 10 fois la taille du mien. Mais Jonathan Edwards, déjà, c'était un génie. Mais à 17 ans, il a écrit 70 résolutions à laquelle il s'est plié. Et dès son jeune âge, il a commencé à être discipliné. Et aujourd'hui, il est connu comme un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Amérique. Il a été le catalyseur du premier grand réveil aux États-Unis. C'était des églises traditionnelles. Il a fait exploser la vie spirituelle dans son église et dans des centaines d'églises aux États-Unis. Le gars passait 13 heures par jour à méditer la parole, à l'étudier et à prier. Il était tellement discipliné quand il était en cheval pour aller faire les visites pastorales. Dès qu'il avait une pensée, il écrivait sur un bout de papier et il se l'épinglait dessus. Et il rentrait de ses journées rempli de bouts de papier partout. Mais c'était son témoignage. Je vais vous lire juste quelques résolutions. Et c'est peut-être pas des résolutions qui vont parler à tout le monde, mais c'était ses résolutions à lui. L'appel que Dieu lui a donné, à laquelle il s'est attaché. Résolu de jamais perdre de temps, mais de faire fructifier chaque instant autant que je peux pour le plus grand profit. Là, 13 heures par jour de ministère, c'est quand même pas mal. Mais il s'y appliquait. Résolu de vivre de toutes mes forces tant que je vis encore. Résolu de chercher à trouver des opportunités pour exercer la charité et la libéralité. Vous imaginez, c'est plus de jeunes de 17 ans prenaient cette résolution. Enfin, je trouve ça génial. Un ado de 17 ans qui prend cette résolution d'être généreux. Enfin, c'est juste génial. Résolu dès aujourd'hui et jusqu'à ma mort de ne pas agir comme si je m'appartenais, mais comme étant entièrement à Dieu et de vivre d'une manière conforme à cette vérité. Et enfin, le témoignage de Jonathan Edwards, il est vraiment chouette. Et alors qu'il était un grand théologien à la fin de sa vie, il est parti dans les territoires indiens pour être un évangéliste. Il avait juste envie de suivre Dieu là où Dieu l'appelait. Résolu d'agir selon ce que jugerais comme étant le meilleur et le plus sage si j'étais au ciel. Ça fait cogiter, hein? Résolu, si quelque chose est dit dans une conversation concernant une personne, si je juge que cela serait louable en moi, je suis résolu de rechercher à imiter cette chose. La bonne jalousie, j'appelle ça. Ou quand il voit quelque chose qui donne envie chez quelqu'un, il dit, j'ai envie de refléter ça. Et puis finalement, résolu de ne jamais abandonner, ni de ralentir dans ma lutte contre mes corruptions, même si je suis sans succès. Et ça, franchement, c'est la vie chrétienne, parce qu'on aura toujours des luttes et on aura toujours des chutes. Mais le vrai combat, c'est de savoir se relever. Et c'est ça que j'aime avec les résolutions, c'est que la plupart de mes résolutions, je ne les ai pas tenues. Mais ça m'a fait avancer. Et c'est pour ça que je trouve que c'est génial de pouvoir avoir des résolutions et de pouvoir se projeter vers l'avant. Alors, dans les quelques minutes qui suivent, j'aimerais juste vous encourager par rapport à vos résolutions. Et peut-être dans votre vie chrétienne, vous dites, mais j'ai envie de relever des défis. J'ai envie de rebooster ma vie de prière. J'ai envie de booster ma vie de couple. J'ai envie de booster mon engagement dans l'église. J'ai envie de changer dans ce domaine ou dans ce domaine. J'ai envie de changer des habitudes ou j'ai envie d'enrichir certaines habitudes. Et peut-être de réfléchir à prendre des résolutions. Alors, comme je disais, des fois, on parle de prendre des décisions. On se dit, mais finalement, c'est pas la chair, ça. C'est pas du légalisme. Et un verset que je trouve vraiment fort en Philippiens 2:13, où c'est écrit que Dieu produit le vouloir. Vous savez que si vous désirez prier davantage, c'est parce que Dieu a déjà placé ce désir en vous. Il a déjà fait la moitié du travail. Il a déjà mis le vouloir. Et des fois, on coupe les jambes au Saint-Esprit en disant, je suis pas prêt à prendre la décision pour suivre ce que Dieu a déjà commencé à moi. Le désir d'évangéliser autour de nous, ça vient pas de nous, ça. C'est Dieu qui a déjà commencé une œuvre en nous. Sa grâce, elle est déjà présente dans le vouloir. Et le fait qu'on a des désirs de pouvoir grandir dans ces domaines de la vie, c'est pas juste parce que c'est le modèle d'être des bons chrétiens, mais Dieu, il a déjà commencé cette œuvre en nous. En créant le vouloir, il a déjà commencé cette œuvre. On est déjà à la moitié du mur à franchir. L'autre moitié, c'est de s'approprier ce désir en le formulant avec nos propres mots. Et en prenant des décisions. Et une résolution qui marche, c'est une résolution qu'on écrit, qu'on partage et qui est concrète. Comme je vous l'ai dit, tous les personnages bibliques que j'ai cités qui prenaient des résolutions, je ne pense pas qu'on pourrait dire Daniel, David, Noé, Ruth, c'est du légalisme. Non, Dieu avait, par son Saint-Esprit, donné une conviction par rapport à leur appel. Et eux, ils l'ont formulé avec leurs propres mots. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde brièvement dans un des passages que j'ai trouvé le plus inspirant en termes de résolution. Et c'est en Néhémie, chapitre 10. Et quand on arrive dans le livre de Néhémie, enfin, c'est un livre fascinant, parce qu'on arrive à la génération qui est sortie de l'exil. Et quand on pense à l'exil, c'est le fruit de la rébellion. Dieu a envoyé son peuple en exil parce que son peuple était idolâtre, son peuple était dur de cœur, son peuple était tellement loin que la seule manière de sauver son peuple, c'était de le chasser, de le tuer et de le ressusciter plus tard. Enfin, c'est l'image qu'on a dans la Bible. Je vais t'envoyer un lion, il va te dévorer, mais je te ressusciterai plus tard. Enfin, c'est un langage super fort. Israël a connu une rébellion immense. Et là, on est dans la génération de Néhémie, on est avec les petits-enfants de la pire génération de l'histoire d'Israël. La génération de Néhémie vient de loin. Et là, on voit qu'ils vont se rassembler. Et avec Esdras, ils vont lire la parole de Dieu. Et à ce moment-là, il y a un réveil national. Les gens sont en larmes. Ils vont prendre des journées entières à lire la parole, à l'étudier, à prier et à jeûner. Ils sont en larmes face à la parole de Dieu. Et ils sont en larmes face à leurs péchés. Ils sont brisés dans leur cœur. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire pour pas rester dans ce cercle vicieux où Israël a vécu pendant tellement de générations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour briser justement ce cycle de destruction, d'idolâtrie, d'échec? Et là, cette génération va prendre des résolutions. Et on pourrait dire, bon, d'accord, ils ont pris des résolutions, qu'est-ce que ça change? Quand on regarde à l'histoire d'Israël, on voit les mêmes luttes qui reviennent à chaque fois. Il n'y a pas de respect de sabbat, ils ne connaissent pas la loi, c'est l'idolâtrie, c'est les mariages mixtes. On va en avant 400 ans plus tard, quand Jésus arrive, où c'est qu'il exerce son ministère? Il prêche de lieu en lieu, mais il va dans quel endroit en général? Dans les synagogues? Et il lit la parole dans les synagogues. Ça commence aux résolutions de Néhémie, où ils vont remettre la Bible au centre. Ils vont remettre le système religieux au centre. 400 ans plus tard, Jésus exerce son ministère parce que le peuple de Néhémie a pris des résolutions. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec les pharisiens, il n'y a pas du légalisme qui rentrait, etc. Mais il y a un fruit de ces résolutions qui a été tellement puissant que ça a permis à Israël de surmonter des péchés qu'ils n'avaient pas surmontés pendant 1500 ans d'histoire. Et quand on arrive au chapitre 10, ils vont prendre des résolutions. 5 résolutions, on pourrait résumer. Et aujourd'hui, bon, on a juste quelques minutes, donc je vais juste couvrir la première résolution. Et je résume un petit peu tout ce chapitre, mais voilà, ils vont prendre premièrement une résolution fondement de vie. Ils vont dire, on va prendre la résolution de mettre la parole au centre et de l'obéir, de la mettre en pratique. Ils vont prendre une résolution d'affection, de remettre Dieu en premier. Ils vont prendre une résolution de caractère. Il y avait toujours cette lutte de faire des mariages mixtes avec des non-croyants, et là, ils vont prendre la résolution de dire non, on veut rester pur. Une résolution de lutte contre un point faible, de faire confiance en Dieu, de respecter le sabbat. Alors c'est sûr, on a un plus gros salaire qu'on travaille 7 jours. Et c'était un pas de la foi de dire non, Dieu, je prends un jour pour méditer, pour me reposer, pour penser à toi. Et finalement, une résolution particulière à leur appel. Dieu avait établi un système religieux pour Israël, que Israël avait bafoué pendant des siècles. Et là, ils vont prendre la résolution de remettre ce système en place, de positionner des gens dans des rôles respectifs pour que ça se fasse. Comme je dis, on n'aura pas le temps de regarder à tout, mais j'aimerais juste regarder à leur première résolution. Et ça nous donne juste une petite idée de comment ils prennent la résolution, comment ils l'appliquent, et comment ça va changer l'histoire d'Israël et notre histoire de l'humanité avec un grand H. J'invite à lire donc avec moi en Néhémie. On va juste regarder à deux versets, 29 et 30. La première résolution d'Israël, de remettre la Bible au centre de leur vie. Et ils se donnent à cela en suivant 3 engagements. Nous lisons la parole de Dieu. Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre, ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés, sous peine de malédiction et avec serment, à marcher suivant la loi de Dieu, donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. On voit le peuple qui se réunit et ils savent que dans leur histoire, il y a eu tellement d'échecs, ils doivent faire quelque chose de différent. Et là, ce que j'aime quand on arrive au verset 29, si vous regardez les 28 versets avant, je ne les ai pas lus, mais c'est des listes de noms. Et souvent, les listes de noms, on les saute. Mais je trouve ça quand même fort que cette liste de noms, c'est ceux qui se tiennent redevables en disant « on a signé le contrat ensemble ». On est engagés les uns envers les autres pour réussir dans cette résolution. Afin de ne pas chuter, pas tomber dans l'apathie, la paresse, le compromis ou autre, ils disent « on doit trouver un autre système ». Et là, on est dans une culture d'honneur et de honte. Quand tu t'affiches, ce n'est pas pour faire honte à ton engagement, sinon tu ne vaux plus rien. Et là, ils vont prendre résolution publiquement. Et des versets 1 à 28, on lit 84 noms. Un gouverneur, 21 prêtres, 16 lévites, 46 autres dirigeants, et puis il y a le peuple. Et ils prennent cette résolution, pas simplement de respecter la parole, mais de la mettre en pratique, de la connaître et de l'appliquer. Et là, ils savent que s'ils ont envie de s'appliquer à mettre la parole de Dieu voilà, dans leur quotidien, ils ne peuvent pas le faire chacun chez soi, de son côté, on a besoin les uns des autres. Ça, c'est la vie chrétienne. Dieu, il ne sauve pas des individus, il sauve une église. Et si on veut qu'une résolution marche, ben, il faut la partager autour de nous. Alors là, c'est sûr, bon, c'est peut-être pas la méthode que j'encourage à tout le monde. Hein. Tu publies ça sur Internet, voici mes résolutions. Et comme eux, ils ont fait, le publier publiquement et le partager à tout le peuple, c'est une manière de faire. Mais le principe, quand même, je trouve, il est puissant. Ils écrivent leurs résolutions premièrement, comme ça, c'est du concret. Et ensuite, ils les partagent pour qu'ils soient vraiment engagés. Que ce ne soit pas juste des belles paroles. Proverbe 18, 1 et 2 dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. » Et c'est vrai que quand on réfléchit tout seul, on est le plus intelligent dans la salle. Donc on est très intelligent. Mais la Bible nous dit que quand on s'isole, on s'irrite sur tout ce qui est raisonnable. Et si on veut progresser dans la vie chrétienne, on ne peut pas le faire tout seul. Et on a besoin de s'entourer de personnes qui connaissent nos luttes et qui connaissent nos victoires, qui peuvent nous encourager quand ça va bien et qui peuvent nous reprendre quand ça va mal. Mais ça, ils peuvent seulement le faire s'ils connaissent notre chemin de vie et là où nous sommes. Je me souviens la première fois où j'étais dans un petit groupe, c'était quand j'étais à l'université chrétienne, dans le dortoir, on avait fait un petit groupe et on étudiait la Bible ensemble et une soirée, le leader a dit ben on va partager nos luttes. Et ça m'a semblé tellement bizarre parce que voilà, je devais avoir 19 ans, mais jamais dans ma vie j'avais fait ça. Jamais dans ma vie j'avais confessé un péché en public, à un groupe. Et je me sentais tellement mal à l'aise et du coup je ne savais pas quoi dire. Et je me suis dit, bon, je vais prendre le truc le plus général, je vais dire l'orgueil. Et en fait, il y avait tellement d'orgueil dans mon cœur à ce moment-là. Juste le fait de le verbaliser et d'être redevable, ça a complètement transformé ma vie. Ça a complètement changé ma croissance chrétienne. Parce que pour la première fois, j'avais appliqué la confession. Et que j'étais plus tout seul dans face au péché. La marche victorieuse du chrétien, ça commence par cette résolution fondement de vie d'être attaché à la parole. Mais sans que nos vies soient transparentes avec d'autres personnes autour de nous, Jésus le disait, l'esprit est bien disposé, mais la chair est quoi ? Et là, il ne dit pas « chacun veille de ton côté et prie », non, il dit au pluriel, vous là, ensemble, veillez et priez. Jésus le commande au pluriel à ses disciples. On a besoin ensemble de veiller et prier les uns pour les autres. Et là, ici, on voit que le peuple d'Israël, de génération en génération, ils sont ralentis dans leur marche spirituelle parce qu'il y a plein de compromis. Ils ne respectent pas le sabbat, la Bible n'est pas au centre, il y a des mariages mixtes. Il y a un manque d'investissement dans le royaume de Dieu, ils ne gardent pas le maintien du temple. Et là, ils disent, mais on est misérable. On est misérable quand on ne suit pas Dieu. Et il faut qu'on fasse quelque chose pour briser ça et pour changer. Il y a quelques années, j'ai rencontré un jeune homme qui me disait, mais voilà, je lutte avec la pornographie, mais j'ai tout essayé. Du coup, bon, tu peux me parler, mais j'ai pas trop. Voilà, j'ai pas trop d'idées que ça va vraiment changer, quoi. J'ai appris plus ou moins à accepter ma lutte. Je lui dis, mais est-ce que tu confesses là de manière régulière à quelqu'un? Et puis on a commencé toutes les semaines à faire un bilan. Et je lui dis, mais dis-moi pas juste tes luttes, donne-moi tes victoires, que je t'encourage. Et sa vie, elle a changé. Parce qu'il n'est plus tout seul. Quand on est isolé dans notre foi, sans amis proches, sans église de maison, groupe de croissance, enfin, ces lieux où on peut avoir des relations proches, c'est tellement difficile d'avancer dans la foi. Et d'être entouré de personnes qui nous connaissent, qui connaissent nos buts, qui connaissent nos ambitions spirituelles, qui connaissent nos axes de croissance, qui sont là pour nous encourager quand on réussit, mais ça nous booste de manière folle. C'est incroyable. Moi, quand je lis la Bible, je me dis, on a tous besoin d'un Paul, on a tous besoin d'un Timothée, on a tous besoin d'un Jonathan. On s'entoure de mentors, des personnes qui nous poussent. On s'entoure de disciples parce que voilà, ce qu'on ressent, on doit aussi le donner. Puis on se entoure de vis-à-vis. Avec mon épouse, on a ce défi que souvent, on a la liberté de dire à l'autre, ben voilà, est-ce qu'il y a une chose dans ma vie que je peux changer? En général, je ne demande qu'une parce que si elle me fait la liste, ça fait mal. Mais c'est tellement bien d'avoir. Enfin, ça sert à quoi de vivre avec quelqu'un, la personne qui vous connaît le plus, qui ne peut pas vous aider à grandir? Et cette transparence, ça change tout dans la relation et ça nous transforme de manière exponentielle. Jésus, il disait à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et Jésus définit l'amitié biblique parce qu'il y a une relation de vérité. Parce qu'on se dit la vérité. Et quand Jésus dit la vérité à ses disciples, ce n'est pas toujours des vérités faciles à accueillir, mais il le fait avec tant d'amour. Et pour leur bien. C'est le proverbe qui dit maudits sont les baisers de l'ennemi et bénis sont les blessures d'un ami. Je me souviens, mon petit frère, quand il avait 17 ans, il cheminait loin de Dieu, il était dans la drogue, dans l'immoralité. À un moment, je viens lui dire, et je lui dis, mais je pense pas que tu es chrétien. Il était tellement en colère, il a frappé dans le mur, il a laissé un trou. On l'a bouché l'année dernière, pendant 10 ans, il y avait le trou dans le mur qui nous rappelait cet événement. Mais un mois plus tard, il s'est converti. Il avait besoin de cette confrontation parce qu'il était face à son péché et se précipitait dans un fossé. Peut-être vous connaissez l'auteur Stephen King, le romancier qui a écrit, voilà, qui a vendu plus de 350 millions de livres aujourd'hui. Son premier roman, il a été rejeté par plus de 30 maisons d'édition. Il était tellement en colère en disant, voilà, j'abandonne. Il a pris son manuscrit, il l'a jeté aux poubelles. Son épouse est venue le chercher, il dit, non, moi je crois en toi. Puis maintenant, voilà, enfin, il a vendu des millions et des millions de livres. Parce qu'il y avait une personne qui était là derrière en disant, voilà, je crois en toi. Ça, c'est le premier engagement que le peuple va faire. Et un engagement, on va le voir, il va avoir du fruit. Et ce n'est pas que ça va être difficile. On voit à la fin de Néhémie, le peuple va rechuter. Néhémie va les reconfronter. Mais parce qu'ils ont pris une résolution, ils étaient engagés. Et du coup, des vrais changements vont pouvoir être effectués. Alors l'engagement, il est les uns envers les autres. Et ça, on a besoin de ça. De faire aiguise le fer. Mais c'est un engagement aussi avec Dieu, dans leur relation avec Dieu. De remettre Dieu au centre, de remettre Dieu en premier. On revoit ça au verset 30. Ils se sont engagés, sous peine de malédiction et avec serment, à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Et là, c'est vrai qu'ils prennent une résolution, ils se mettent sous malédiction. Enfin, c'est super intense, hein. C'est super intense. Mais ils se disent, mais c'est Dieu ou c'est rien? Et on a besoin de s'engager directement envers Dieu. Du coup, on va prendre un serment et on va faire une promesse à Dieu directement. Et là, c'est un contexte un peu particulier. Moi, je ne vous encourage pas à vous placer sous une malédiction. Mais Israël, finalement, dans l'alliance avec Dieu, ils étaient déjà dans un contrat de bénédiction ou de malédiction. Si tu obéis Dieu, tu es béni. Si tu désobéis, Dieu, il va te maudire parce qu'il veut te rattraper. Parce que Israël, c'est le poteau indicateur vers le salut de Dieu. Et si Israël ne remplit pas sa fonction, il n'y en a plus de poteau indicateur. Et Dieu, dans l'histoire d'Israël, va constamment les juger pour les ramener à lui pour que des gens soient sauvés. Et là, le peuple, ils ont connu la malédiction. Ils ont été déportés. Et là, ils rentrent dans le pays promis, mais ils sont encore sous tribu, ils sont encore dans une certaine servitude. Ils ont goûté à la malédiction et disent, je préfère avoir plus de malédiction plutôt que d'abandonner Dieu. Et ils y ont goûté. Hein. Ils disent, on veut tellement que Dieu soit dans notre vie, qu'on est prêt à... qu'il nous rattrape de tous les moyens possibles, quitte à nous maudire pour nous ramener à lui. Quelle résolution. Ils avaient connu la vie sans Dieu, ils se disent, mais j'en veux plus. On a connu l'échec, on n'en veut plus et on va faire tout ce qu'on peut pour s'engager devant Dieu, pour que ça change. Alors c'est sûr que c'est un moment particulier dans l'histoire et une fois de plus, Salomon va dire, faites attention dans les vœux que vous faites, dans les promesses. On sait que voilà, on peut pas s'engager dans tous les domaines et avec trop d'engagement, mais Dieu nous appelle quand même à avoir cet esprit d'engagement. Et quelque part, faut se mouiller. Des fois, faut se mouiller. Et on vit dans une génération, comme je le dis, qui est peu consacrée. On fait des vœux quand on se marie, mais on les oublie très vite. On se dit chrétien, mais est-ce que Christ est vraiment la source de notre joie et de notre plaisir? Et malheureusement, quand on fait le bilan du monde évangélique de nos jours, je ne sais pas si ceux qui nous regardent peuvent dire « Ouais, Dieu, il est en premier, là. » Parce que souvent, Dieu, il n'est pas en premier. Dans notre cœur, dans nos temps, dans nos ressources, dans notre générosité, dans nos priorités. Et des fois, on a besoin de se mouiller pour se réengager et dire « Non, Dieu, je vais pas descendre en dessous de cette ligne-là. Je me mets une barre et je descends pas en dessous de ça. » Alors, je vais vous lire une lettre écrite par un pasteur à une certaine compagnie. Bon, c'est une lettre fictive. Il dit « Cher monsieur, le café que vous produisez est d'un goût exquis. Votre préparation permet à des milliers de personnes tous les jours de combattre la fatigue et d'améliorer même la mémoire, la productivité, l'humeur et la réactivité des consommateurs pendant plusieurs heures. Et j'ai remarqué que votre produit fait des miracles le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et surtout le samedi. Mais ceux qui le consomment le dimanche n'en semblent pas affectés. Ils affirment que les effets contre la fatigue sont inefficaces et ne peuvent se rendre à l'église ou y rester éveillés. Serait-ce possible d'ajouter un ingrédient qui marche aussi le dimanche ? Avec espoir, un pasteur concerné. On a tous besoin de se fixer des buts si on veut aller de l'avant. Et comme je disais, enfin, c'est pas pour en faire du légalisme. Il faut que ça vienne d'un cœur qui est engagé dans l'amour loyal. On est passionné de Christ. Et parce qu'on est passionné de Christ, on veut honorer Christ plus que tout le reste. Et c'est pour ça qu'on s'engage. Alors on a regardé à 2 Corinthiens 5. J'aime bien le verset 13 qui précède le passage qu'on a regardé. En effet, si nous faisons preuve de folie, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse. Et dans ce langage de l'engagement, il y a de la folie. Il y a de la sagesse. Enfin, le mariage, c'est ça. Hein. Le mariage, c'est de la folie de s'engager à devenir un avec quelqu'un, à tout donner à quelqu'un. C'est de la folie. Et pourtant, c'est la sagesse de Dieu parce que c'est la manière la plus épanouissante de vivre les relations de couple. Et nos engagements, ouais, il y a un brin de folie, c'est sûr. Parce que s'engager, c'est coûteux, s'engager, c'est un peu fou, mais c'est la sagesse de Dieu. Parce que c'est quand on s'engage qu'on peut être épanoui. Moody, le grand évangéliste du 19e siècle. Alors, je ne connais pas toutes les résolutions de vie qu'il a prises, mais j'en ai noté deux dans ses biographies. Il avait une résolution qui était visionnaire. Il disait, moi, au moment que je meurs, je veux avoir sauvé 1 million d'âmes de l'enfer. Une vision de fou. Il avait aussi une autre vision, enfin une autre résolution quotidienne. De jamais se coucher sans avoir annoncé l'évangile à au moins une personne. Et on pense qu'à la fin de sa vie, il a proclamé l'évangile à plus de 100 millions de personnes. Une fois de plus, parce que Dieu lui avait donné un appel, et c'est peut-être pas la résolution pour vous, Mais c'était l'appel que Dieu lui a mis à cœur. Et par fidélité, il s'engageait, il a persévéré, et Dieu l'a utilisé de manière puissante. Alors le peuple s'engage les uns avec les autres. Il s'engage avec une promesse, un serment devant Dieu. Et puis il s'engage aussi autour de la Bible. Et là, c'est le dernier engagement. C'est en écoutant la parole que les leaders sont touchés. Quand Esdras lit la Bible, explique la Bible, ils sont bouleversés de leur péché, mais aussi de la grandeur de Dieu. Ils se disent, ce livre-là, il nous donne la vie et on n'a pas envie de perdre cette flamme. Et du coup, ils vont s'engager. Ils se sont engagés sous peine de malédiction avec serment à marcher suivant la loi de Dieu, donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique certains des commandements. Tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Les rabbins disent que dans l'Ancien Testament, il y a quoi ? Il y a 613 commandements ? Pas de pression, hein ? Je suis content de ne pas être un chrétien de l'Ancienne Alliance. En même temps, dans le gouvernement français, je pense qu'il y a plus de 10 000 lois. Donc voilà, on est pas mal non plus. Hein. Mais c'est vrai que quand on pense à l'Ancienne Alliance, aux commandements, aux règles, aux sacrifices, aux lois liées à l'impureté, à la pureté, aux choses qu'on doit manger, qu'on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas toucher, qu'on doit vivre, ça fait quand même une liste exigeante. Et là, le peuple se dit non, mais c'est ce que Dieu a pour nous. Il nous a appelés pour voilà, avoir un appel particulier. Et quand on l'obéit, on est béni. Et c'est ça qu'on veut connaître. Quand on écoute sa parole, on a cette vie en nous. Et ça, c'est ce qu'on veut. Et là, les leaders sont prêts à mettre la main sur la Bible et dire, voilà, c'est notre bouquin. Si vous voyez quelque chose dans ce bouquin et qui n'est pas conforme à ma vie, vous me reprenez parce que je viens de m'engager. L'Église serait tellement pas plus sainte si on avait cette attitude. De dire, si tu vois quoi que ce soit dans la Bible, dans mon comportement, dans mon attitude qui n'est pas conforme à la Bible, viens me voir. Viens me voir. Nous, dans notre Église, je le dis souvent que les gens ont la liberté, à tous les responsables, de venir nous voir s'il y a quoi que ce soit dans notre vie ou dans notre enseignement qui n'est pas conforme à la Bible. Parce que c'est notre autorité. Et le premier engagement du peuple d'Israël, c'est de permettre au réveil de perdurer. Ils disent, il y a la vie dans cette parole. Moi, j'ai connu ça à 17 ans, j'ai eu la Bible en 2 mois, j'ai un boost de vie. Je me dis, mais c'est génial la Bible, c'est génial la parole de Dieu. John Bunyan disait, celui qui court loin de Dieu dès le matin aura du mal à le retrouver le reste de la journée. Alors ça veut, voilà, pareil, je ne vais pas rentrer dans le légalisme en disant, il faut lire la Bible le matin, mais c'est important de mettre Dieu en premier. Et de donner un temps privilégié à Dieu, pas juste de lui donner les restes. Et c'est vrai que voilà, on vit dans un monde qui va à 1000 à l'heure. Mais à Dieu, on lui donne le reste souvent. On lui donne les restes de notre énergie. Si j'ai le temps, si j'ai l'énergie, s'il me reste encore un peu d'argent, je te donnerai un peu de reste. Et on ne sait pas ce que ça veut dire souvent de mettre Dieu en premier. Spurgeon disait aussi, soit ce livre vous éloignera du péché, soit le péché vous éloignera de ce livre. Et mon encouragement, comme celle de Néhémie, c'est de donner à la Bible une place privilégiée. Et une fois de plus, on est dans une génération vraiment unique parce qu'on a accès à la parole de Dieu comme aucune génération n'a jamais eu accès à la parole de Dieu. Il y a 100 ans, 200 ans, les gens n'avaient pas la Bible comme nous on l'a. Et souvent, ils devaient la mémoriser. Mais quand je lis les persécutions des Huguenots et que je vois leurs témoignages et la quantité de versets qu'ils avaient mémorisés, c'est fascinant. Et c'est ça qui les soutenait dans les moments difficiles. Mais ça passe souvent par des résolutions. Moi, je connais peu de personnes qui prient régulièrement pour des gens sans avoir de liste de prières. Je connais peu de personnes qui lisent la Bible régulièrement sans avoir un plan de lecture. Et ce n'est pas que la liste est sacrée, mais Dieu, il a aussi une liste. Ça s'appelle le livre de vie. Et je suis content qu'il la tient un jour. Et puis ce qui est frappant, comme je disais dans les résolutions, c'est que le peuple d'Israël, il va choisir 5 résolutions. On m'a parlé d'une, mais quand on commence à structurer nos vies avec une discipline sur laquelle on ne plie pas le genou, tout le reste de notre vie peut être réorienté. Dans son livre « La puissance des habitudes », Charles Duhigg, alors c'est un livre séculier, mais il est vraiment super pour tout ce qui est étude des habitudes, affirme que 40% de nos décisions sont des habitudes. Quand vous brossez les dents, vous ne réfléchissez pas à où mettre le dentifrice, où s'épousser, comment déboucher. C'est des réflexes tout ça. Et 40% de ce qu'on fait, c'est des réflexes. Et dans la vie chrétienne, c'est souvent pareil. On a besoin de prendre des plis. Et même au niveau du cerveau, c'est fascinant parce qu'une habitude, ça s'annule pas. Une habitude, ça se remplace. C'est comme ça que les neurones marchent. Et c'est ça que Paul, enfin, je partageais ce verset, il dit « on se dépouille et on se revêtit ». Et la manière de changer dans la vie chrétienne, ben c'est pas qu'on arrête des habitudes, mais on les transforme. Et c'est pas juste en arrêtant de pécher qu'on va arrêter de pécher, c'est en remplaçant, en faisant des choses pour Dieu. En même temps, on s'attend à quoi quand on lit la parole de Dieu? Moi, j'ai compté qu'en hébreu, quand Dieu crée le monde, il le dit en prononçant 167 mots. Ça fait le quart d'une page. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe quand vous prononcez 167 mots. Mais la parole de Dieu, c'est de la bombe, quoi. C'est de la bombe. Et voilà, on a beaucoup plus que juste quelques paragraphes, on a un livre entier. Jésus, en un mot, il ressuscite un mort. T'as déjà essayé de ressusciter un mort? En un mot, Lazare sort. Bon, deux, d'accord. Enfin, la parole de Dieu, c'est d'une puissance, mais phénoménale. Et c'est ça l'outil que Dieu nous a donné. Et quelque part, faut pas qu'on perde notre émerveillement et notre foi. Que quand on est confronté à la parole de Dieu, quand Moïse, il va sur la montagne, il descend et ça dit que son visage resplendit. Pourquoi? Parce qu'il a eu une expérience extatique. Non, parce qu'il a parlé avec Dieu. Il a été confronté à la parole de Dieu. Pratico-pratique. Si vous choisissez de prendre une résolution, moi je vous conseille de choisir, voilà, dans la vie on peut plus ou moins la... je sais pas pourquoi il y a ça en haut. Hein. La première c'est adoration. On pourrait diviser la vie en 7 sections. Et moi de temps en temps j'aime, sur un mois, me donner des challenges, soit dans une ou plusieurs de ces catégories, soit dans toutes les catégories. Et puis de me donner des challenges pour pouvoir justement essayer de faire les choses différentes. Un challenge pratique, par exemple, c'est sur un mois, tous les jours, envoyer 3 textos d'encouragement à des personnes autour de moi. C'est tout simple. Mais une fois qu'on prend ce pli et que ça devient une habitude, c'est tellement chouette quand on reçoit des textos de personnes qui veulent nous encourager parce qu'ils ont cette habitude aussi. Et c'est des petits gestes que finalement, quand nous, on prend cette résolution, ça devient contagieux. Il y en a d'autres qui se reconnaissent là-dedans. Et c'est vraiment chouette. L'adoration, la discipline spirituelle, peut-être juste une résolution de prière, une résolution de jeûne, une résolution de mémorisation, mais juste se dire, voilà, j'ai envie d'aller de l'avant. Et peut-être juste sur un mois, peut-être avec un vis-à-vis, on va se donner ce challenge sur un mois, on va faire ça ensemble. Le challenge que j'ai donné à mon église pour les 2 mois qui viennent, on fait une série dans les proverbes. On dit, voilà, si chaque personne dans notre église prie tous les jours pour bénir 5 personnes dans notre ville, à 200, on prie pour 1000 personnes tous les jours. Et c'est juste chouette. C'est juste chouette. Et puis finalement, comment garder une résolution, comme je disais, réfléchir à ces résolutions. Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est mes propres mots? Est-ce que c'est quelque chose qui me donne envie? Donc de bien choisir les résolutions. Puis après de les écrire et de les partager. Souvent, mes résolutions, je les imprime, je les mets sur le frigo. Je les mets pour que ma femme les voit. Ma première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube, c'était mes 7 résolutions de couple. Et quand je les ai écrites et partagées à mon épouse, elle me dit, ces résolutions, oui, je sais que c'est tes résolutions, même si tu ne les avais pas écrites. Mais maintenant, elles sont publiées, donc j'ai intérêt à les garder. Mais c'est juste pour vous encourager. Voilà, les résolutions, c'est un outil que Dieu nous a donné. Et il y en a d'autres, des outils pour la sanctification. Il y a plein de manières d'approcher la sanctification. Moi, les résolutions, ça a changé ma vie. Et donc, c'est mon encouragement pour vous. Dieu nous a donné des outils pour pouvoir faire la différence. Et ça, c'est un des outils qu'on a. Amen. Prie ensemble. Oui, Père Céleste, on te remercie premièrement parce que toi, tu es résolu. Tu as écrit tes enfants sur une liste et tu nous promets qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de toi. Merci Père Céleste, parce que toi tu es engagé pour nous rendre purs le jour de Christ. Tu es engagé pour finir l'œuvre que tu as commencée en nous. Tu es engagé pour nous rendre parfaits pour toute l'éternité. Et de nous, Père Céleste, d'apprendre de toi, d'apprendre les uns des autres aussi, et de vivre un engagement chrétien où on a aussi envie de se projeter vers l'avant, de manière concrète, pour pas qu'on ait une vie de regret, où on dit finalement je me suis pas mis d'objectif et j'ai tourné en rond. Père Céleste, de nous de vivre avec fierté notre vie chrétienne, encore une fois pas en entrant dans un légalisme, mais parce qu'on est passionné de voir plus de toi. Amen.